l'introduction à l'étude de l'Épître aux Hébreux. On ne va pas relire le texte actuellement parce que je pense que vous l'avez lu, et puis nous le lirons au fur et à mesure que nous progresserons. Épître aux Hébreux, on pourrait tout de même lire, mettons si vous voulez, les quatre premiers versets. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Mais il faut que, avant tout, nous réfléchissions sur cette importante partie du Nouveau Testament que nous nous proposons d'étudier. Je dirais d'abord ceci, c'est que, en mettant à l'étude toute partie de notre Bible, quelle qu'elle soit, nous pensons et nous devons penser aux besoins de l'Église aujourd'hui. Bien sûr, souvent les textes nous ramènent à des faits historiques, mais il faut que nous sachions ces faits historiques, cette partie historique est tellement importante dans la Bible, nous est adressée pour que nous puissions retrouver la satisfaction des besoins de l'Église aujourd'hui, de nos besoins spirituels aujourd'hui. L'apôtre Paul nous dit dans la première aux Corinthiens, que ces choses, les choses qui se sont passées autrefois du temps du peuple d'Israël, ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc, nous avons en vue les besoins de l'Église aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu, même si elle traite de faits historique, demeure éternellement. Pierre l'affirme dans sa première épître, la parole de Dieu demeure éternellement. De plus, Jean nous dit, dans le chapitre 17 de son évangile, que la parole de Dieu est la vérité. Donc, elle demeure éternellement, elle ne vieillit pas, elle n'est pas surpassée par la transformation qui a pu se produire au sein de la société humaine. Elle n'est pas surpassée, elle est la vérité. Elle convient donc à tous les temps. Elle ne passe pas, ne vieillit pas. Elle est opposable, je dis bien opposable, à toutes les situations. Elle apporte le conseil permanent de Dieu. Ce n'est pas la peine que Dieu, maintenant, parle d'une autre manière. Il a mis un point final à sa révélation, c'est-à-dire à la Bible. Il a mis un point final. Ce n'est pas nécessaire qu'il parle davantage. Il, d'ailleurs, nous égarerait. Nous serions en face d'un volume tellement important de révélation que nous nous y perdrions. Par conséquent, Dieu est sage, la Bible est déjà tout de même quelque chose d'assez volumineux, d'assez important, et Dieu a décidé que c'était fini, il n'y avait plus rien à ajouter ni à retrancher. Donc elle apporte le conseil permanent de Dieu. L'épître aux Hébreux que nous méditait va nous montrer en effet que la parole de Dieu demeure éternellement. Elle va nous le montrer, on pourrait presque dire nous le démontrer. Nous allons voir en effet cette épître correspondre de façon frappante aux besoins actuels de l'Église que nous avons en vue, les besoins actuels de l'Église. Et ils sont grands, nous allons le dire. C'est aux directions que cette épître nous donne qu'il faut absolument que nous revenions aujourd'hui. Il faut que nous revenions à ces directions. Elles sont perdues de vue. Elles sont perdues de vue. Vous allez le voir. Face aux problèmes actuels, je dis les problèmes de la vie chrétienne, l'enseignement de cette épître présente l'opportunité la plus grande. Car notre vie chrétienne, la vie du disciple de Christ, connaît d'énormes difficultés. Et nous en sommes tous conscients. Nous sommes souvent arrêtés par des difficultés et nous sentons bien que notre vie chrétienne devrait être bien plus forte et riche qu'elle ne l'est. Et les difficultés donc de la vie du disciple de Christ, notre épître les comprend. Elle comprend ces difficultés et elle en présente la solution par le moyen d'un approfondissement de la foi en Christ. Un approfondissement de la foi en Christ. À l'entrée même de notre étude, efforçons-nous d'examiner la nature et les causes, nature et cause, des difficultés rencontrées sur la route qui conduit à la cité céleste. Nous sommes en marche sur cette route. Notre vie chrétienne, c'est cela, c'est son sens. Nous sommes en marche sur un chemin qui a été frayé, comme dit Ésaïe, chapitre 35, et qui va à la cité de Dieu. Eh bien là, il faut examiner la nature et les causes des difficultés que nous rencontrons. Nous allons le faire assez brièvement, mais nous allons tout d'abord considérer les carences, c'est-à-dire des choses qui font défaut, les carences, celles de maintenant, je ne dis pas celles que connaissaient les Hébreux, ils ont connu des carences exactement correspondantes, ou plutôt les nôtres sont correspondantes à celles qu'ils ont connues. Quelles sont ces carences? Eh bien, citons-les. D'abord, une vie spirituelle dépourvue de stabilité et d'un authentique repos de conscience. Ça nous manque. Nous n'avons pas l'authentique repos de conscience qu'il faudrait. Et nous n'avons pas la stabilité que nous devrions connaître. Deuxièmement, en fait de carence, disons qu'il y a un relâchement de la foi effective, c'est-à-dire d'une foi agissante par l'amour et d'une foi persévérante. Foi agissante par l'amour et foi persévérante. Là, il y a un relâchement. Un relâchement. Bien sûr, nous ne sommes pas tous devant peut-être les mêmes carences, les mêmes difficultés, ou le même aigu, la même réalité, si vous voulez, de ces carences. Mais je les signale en gros. Je les signale, ce sont les carences que l'on peut rencontrer, que l'on rencontre, dont on souffre maintenant dans le monde de Dieu, dans l'Église. Troisièmement, nous souffrons d'un arrêt de toute progression. Un arrêt de toute progression, contrairement au plan de Dieu. Nous sommes en défaut, une carence. Contrairement au plan de Dieu. Le plan de Dieu qui prévoit le perfectionnement des saints, dans Éphésiens 4, verset 12, le perfectionnement des saints. Et la consigne que l'apôtre Paul, dans les Éphésiens, nous a révélée, parce qu'il en a eu lui-même la révélation, c'est que il faut que le peuple de Dieu progresse, que le corps de Christ progresse dans la foi. Progresse. Dans les Thessaloniciens, Paul dira qu'il faut que nous marchions de progrès en progrès. Le perfectionnement donc du corps de Christ. Or, aujourd'hui, on se rend compte que ce perfectionnement ne s'opère pas. Ce perfectionnement est arrêté. Quand même il n'est pas remplacé par une régression, hélas. L'on se contente en effet souvent d'une assurance du salut de principe. On a le salut, bon, on l'entend redire, surtout dans les réunions d'évangélisation. Alors on se fonde, on finit par être convaincu, tout à fait convaincu, d'ailleurs plus intellectuellement qu'autrement, de cette assurance du salut. Nous sommes sauvés, bon. Mais pourtant, nous vivons dans l'ignorance de ce qu'est la communion personnelle et vivante avec le Christ. Nous le verrons. Nous vivons dans cette ignorance. Ignorance non pas peut-être quant à la connaissance des textes qui en font mention. Ces textes, nous les avons lus, nous les relisons, bien, mais nous sommes ignorants en fait, en réalité, nous ignorons en fait ce qu'est la communion personnelle et vivante avec le Christ. Maintenant, quatrièmement, je mentionnerai parmi les carences l'insouciance. L'insouciance. L'insouciance, car en effet, il arrive que l'on prenne son parti ou que l'on s'habitue à une vie chrétienne de pauvreté spirituelle et de moindre mise en pratique de la foi. On s'habitue à cela, on en prend son parti. Et l'on ne vit pas, dans le lieu très saint. L'Épître aux Hébreux va nous montrer justement qu'il faut vivre dans le lieu très saint. L'on ne vit pas dans le lieu très saint. Cinquièmement, en fait de carence, il y a aussi l'acceptation d'un mélange d'espérance et d'un présent confortable. Nous ne souffrons pas sur le plan matériel d'une manière générale, n'est-ce pas ? Nous ne souffrons pas. Et alors, nous nous sommes habitués à un certain mélange d'espérance et d'un présent confortable où l'esprit de sacrifice et de renoncement n'a aucune place. L'esprit de sacrifice et de renoncement n'a aucune place. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui acceptera de perdre sa vie la retrouvera. Mais celui qui voudra sauver sa vie lui-même, qui concevra lui-même le mode de salut de sa vie la perdra. En plus des carences, nous pourrions signaler d'autres erreurs, c'est-à-dire, d'abord, la recherche de solutions expéditives dans la vie chrétienne. La recherche de solutions expéditives. Tout ce que je vous dis là, n'est-ce pas, cela provient d'une longue observation des choses que l'on peut constater, qu'il faut constater dans l'Église, au milieu du peuple de Dieu. La recherche des solutions expéditives, voilà ce que j'entends par là. Lorsque, dans le cours de la vie chrétienne, l'on souffre de l'instabilité ou de diverses adversités, l'on se tourne volontiers vers des hommes en renom. Et l'on assiste à des grandes rencontres, ce que permet aujourd'hui les moyens de déplacement. On assiste à de grandes rencontres que ces hommes en renom organisent dans l'espoir d'une délivrance. Combien de fois n'entend-on pas ce terme-là ? On est à la recherche d'une délivrance surnaturelle et immédiate. Voilà. On va là, on se dit, cette grande réunion, tous ces gens qui sont venus de partout et auxquels prédicateur en renom s'adresse, lui et peut-être quelques autres qui l'aident. Alors là, il va certainement nous tirer d'affaire. Il va certainement nous accorder. Nous allons trouver une délivrance. Et cette délivrance, nous la désirons sans aucun effort de notre part. Or, dans l'épître aux Philippiens, et la traduction est bonne, Paul dit bien « Faites tous vos efforts !» Pierre le dit aussi dans sa seconde épître, de faire des efforts. Nous avons quelque chose à faire. Pas notre salut, bien entendu. Ben, notre salut, il est acquis, il est fait. Mais dans le cadre du salut, nous avons quelque chose à faire. Donc, souvent, nous voudrions éluder tout effort de notre part. L'exercice de la foi n'est alors conçu que sous la forme d'un élan momentané. Nous allons à, je ne veux pas citer les lieux, mais à telle ou telle ville où s'organisent des grandes rencontres, que ce soit Paris ou ailleurs, n'est-ce pas ? Et puis alors là, nous assistons, on traîne avec soi dans la vie chrétienne des choses pénibles sur différents plans, peut-être la santé, peut-être autre chose, surtout peut-être vraiment la vie spirituelle que l'on sent être vraiment lourde. Et alors on se dit, là je vais trouver la délivrance. On n'a pas étudié d'ailleurs, en faisant cette recherche, ce que est le terme de délivrance dans les Écritures. Ça, c'est une chose qui serait à faire. Hein, on n'a pas étudié, on ne sait pas ce que Dieu entend par délivrance, n'est-ce pas ? On voit toujours délivrance d'un mauvais esprit ou délivrance d'une chaîne, d'un fardeau, de quelque chose qui est pesant, d'une difficulté dont on ne sort pas, dont on n'est jamais arrivé à sortir. Ben, et tout cela, on voudrait le faire sans aucun effort de notre part, n'est-ce pas ? Que ce soit fait par miracle. Mais Dieu fait des miracles, c'est vrai. Mais Dieu fera les miracles qu'il veut. Et les miracles qui sont en accord avec toute sa parole. Et non pas des miracles que nous concevons. Puis, comme autre erreur, nous pouvons également signaler l'accaparement des préoccupations de l'existence. au détriment de la piété, bien sûr, et de la méditation des Écritures. Où est notre méditation des Écritures? Où est notre piété? Quelle place prend-elle? Tout cela, chacun y répond pour soi-même. Et puis, enfin, il y a les exemples du monde. Les exemples que l'Église va puiser dans le monde. Elle va chercher ses exemples dans le monde. Et ça, c'est une pente naturelle, ça s'est présenté tout au long des siècles de christianisme. Mais c'est une chose à laquelle il faut réfléchir, une chose qu'il faut absolument rejeter. De plus en plus, on va chercher des exemples dans le monde. Et ils sont mauvais, Dieu n'en veut pas. Dieu ne veut pas d'un comportement dont la nature, l'origine, provient du monde. Et puis enfin, disons qu'il y a les fausses conceptions de la marche chrétienne. Je ne m'arrêterai pas là-dessus. Vous voyez, nous avons brossé donc un tableau assez noir. Mais il le faut. Il le faut. L'Écriture nous dit « Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi ». Bien sûr, cela est dit à chacun de nous. Chacun de nous doit le faire. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Et il ne peut pas y avoir de progrès véritable s'il n'y a pas, au départ, cet examen. Un examen qui ne se fera pas simplement une fois tous les ans ou une fois même à période plus longue, mais un examen qui se fait chaque fois qu'il est nécessaire de le faire. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi, si vraiment vous vivez la foi. Parce que, bien sûr, ce que Dieu veut, c'est que nous connaissions une vie chrétienne authentique. Nous avons vu tous ces défauts, nous avons vu toutes ces carences, tous ces défauts, et bien sûr, ils existent parce que la vie chrétienne n'a pas son authenticité. Une vie chrétienne authentique, pour qu'elle soit authentique, il lui faut une force divine et une constance. Et pourquoi la recherche, voyez-vous, à l'occasion d'une grande rencontre, la recherche d'une délivrance est quelque chose que Dieu ne peut pas bénir, parce que il le fera pour des personnes non encore converties, qui ne sont pas encore, bien sûr, des personnes qui s'approchent à une réunion d'évangélisation, elles vont connaître des délivrances immédiates, oui, mais je parle à des chrétiens qui sont engagés dans la vie chrétienne. Et ce que Dieu veut, c'est que nous apprenions à vivre cette vie chrétienne. Et pour la vivre, il faut une force divine et une constance. Une constance. Sans lesquelles, cette vie va perdre ses caractères et se montrer incapable de résister à l'adversité des temps actuels. Car c'est peut-être à notre décharge, direz-vous, les temps actuels exercent une adversité terrible, sans même toujours que nous nous en rendions compte. Par exemple, cette vie qui est agencée par tant de dispositifs technologiques, cette vie qui est conditionnée par la technologie, eh bien, nous y sommes dans cette vie, bien sûr, et nous y connaissons de l'adversité. Ce conditionnement technologique est une source d'adversité pour la vie chrétienne. Aucune solution réelle n'est à attendre d'une délivrance exceptionnelle pour des chrétiens. je dis bien pour des chrétiens, qui ne la rechercheraient pas et qui compteraient dans l'insouciance ou dans l'abandon, qui compteraient uniquement sur la puissance de Dieu pour sortir de leurs difficultés. Non. Aucune solution n'est à attendre d'une délivrance exceptionnelle qui serait apportée par l'intervention d'un prédicateur en renom, comme nous avons dit. Lorsque la vie chrétienne souffre d'affaiblissement, de négligence, d'ignorance et d'inconstance, une vie chrétienne qui souffre de cela, comment voulez-vous que Dieu apporte une délivrance? Mais non, ce serait aller à l'encontre de son rôle de grand éducateur. Dieu veut nous éduquer, Dieu veut nous faire progresser, et s'il nous donnait, malgré nous, ce que nous désirons, c'est-à-dire l'apaisement, le repos de la conscience, n'est-ce pas ? Alors que nous n'avons rien fait pour ça, alors que nous avons peut-être fait même des choses qui s'opposent à cela, eh bien, Dieu agirait contre son plan, contre son vœu, il agirait même, je dirais, à l'opposé de sa justice. C'est la connaissance pleine et parfaite du Christ, de sa personne, de son œuvre, c'est le lien d'amour avec lui, le lien d'amour avec Jésus-Christ, qui pourront maintenir la vie chrétienne à son niveau de vérité et de force. Uniquement cela. Uniquement, chers amis. Ne cherchons pas une délivrance occasionnelle, mais cela. Le lien avec la personne de Jésus-Christ. Alors, que faut-il faire? Eh bien, il faut se livrer au Seigneur sans réserve. Se livrer au Seigneur sans réserve, d'un cœur ardent. Et c'est alors que nous serons en lui. Vous avez remarqué, et l'on vous a déjà signalé dans des prédications, l'emploi fréquent de cette expression « en Christ », « en lui », « en lui » ou « en Christ », n'est-ce pas ?« En lui », c'est fréquent ça, « en lui ». Alors, si nous nous livrons vraiment au Seigneur sans réserve, d'un cœur ardent, nous pourrons être en lui et nous pourrons jouir d'une vie de victoire. Il n'est pas besoin d'une délivrance exceptionnelle, car Christ apporte une vie de victoire. L'Épître aux Hébreux va nous convier à connaître Christ dans son sacerdoce céleste. Le connaissons-nous dans son sacerdoce céleste? Il faut le connaître là. Dans son sacerdoce. Il est souverain sacrificateur. Il exerce cet office de souverain sacrificateur maintenant dans le ciel. Et nous allons apprendre à le connaître dans l'exercice de son sacerdoce céleste. Cet épître va nous dire, premièrement, que le sanctuaire céleste a été ouvert, et que nous pouvons y pénétrer. Pouvons y pénétrer, que nous devons y pénétrer, et y demeurer en présence de Dieu. Deuxièmement, elle va nous montrer que le chemin nouveau et vivant que Jésus a suivi, nous allons dire quel est ce chemin, nous allons le préciser, le chemin nouveau et vivant que Jésus a suivi est aussi celui que nous devons suivre pour nous approcher de Dieu. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Le chemin qu'il a suivi lui-même. Quel est ce chemin? Eh bien, ce chemin, il est simple. C'est le sacrifice de lui-même et l'obéissance parfaite à Dieu. Sondez bien les Écritures, les textes, l'Évangile de Jean. Vous verrez l'obéissance et l'accent que Jésus fait porter sur cette obéissance à son Père. Obéissance parfaite, et puis sacrifice de lui-même. Rien de lui-même, rien pour lui-même, mais tout, tout. Il donne tout de sa personne pour le plan, pour la réalisation du plan de Dieu. Voilà le chemin. Et le chemin qu'a suivi Jésus, chemin nouveau et vivant qu'il a suivi. Et ce chemin, eh bien, c'est aussi celui que nous avons à suivre. Troisièmement, l'Épître va nous dire que Jésus, souverain sacrificateur, nous fait part des trésors de la vie céleste. Lui, il est dans l'invisible maintenant. Il nous fait part des trésors de la vie céleste, afin que nous puissions vivre sur la terre comme des citoyens de la Jérusalem céleste, animés de l'Esprit du ciel. L'Esprit du ciel par le Saint-Esprit. Voilà ce que l'Épître aux Hébreux va nous dire. Ces trois choses. Le sanctuaire céleste est ouvert. Jésus a suivi un chemin, le chemin nouveau et vivant. C'est le nôtre aussi. Et troisièmement, Jésus, souverain sacrificateur, est là, mettant à notre disposition les trésors de la vie céleste, afin que nous vivions en citoyens de la Jérusalem céleste, tout en étant sur cette terre. Lui, il l'a fait, et nous pouvons le faire. Et là, je vais vous dire quelque chose alors qui va être comme un gros point d'orgue dans notre étude. C'est ceci. L'Épître aux Hébreux se propose de nous apprendre à retrouver Dieu. Nous apprendre à retrouver Dieu. Ainsi que notre ferveur perdue, je dis bien perdue. L'Église n'a plus la ferveur que Dieu le voudrait. Si elle l'avait, elle serait bien plus richement bénie qu'elle ne l'est. Donc, l'Épître va nous apprendre à retrouver Dieu et notre ferveur. Et alors, voici ce que je vais maintenant vous dire. Seule la connaissance du caractère céleste de la personne et de l'œuvre de Christ, le caractère céleste de la personne. Nous connaissons par les évangiles Christ dans son œuvre sur la terre. C'est nécessaire, il faut savoir ce qu'il a fait, comprendre ce qu'il a fait. Bon, mais maintenant, il est dans le ciel, il est dans le sanctuaire céleste. Et il faut que nous connaissions le caractère céleste de la personne de notre Sauveur et Maître Jésus. Le caractère céleste de la personne et de son œuvre. Et cette connaissance fera de nous des chrétiens capables d'affronter toutes les difficultés et les tentations d'ici-bas avec la puissance supérieure de l'Esprit Saint. Et je vais vous lire un seul verset, là, dans la deuxième épître de Pierre, pour appuyer ce que je viens de dire. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1 et verset 3. Nous allons isoler ce verset. Chapitre 1, verset 3. Et au besoin, nous le relirons aussi dans la Bible en français courant, qui l'on critique assez souvent, mais qui pourtant a certains avantages, qui ne sont pas absolument généralisés dans toute la version, mais qui n'en sont pas moins existants. Alors, d'abord, dans la seconde, deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Comment elle nous a donné ça? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Ah, au moyen de la connaissance donc de Jésus-Christ, celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Je laisse le reste. Et dans la version en français courant, nous avons ceci. Voilà. La divine puissance du Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Au lieu de, voyez, dans la seconde, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et cette version dit, la divine puissance du Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à sa bonté, en nous faisant connaître. Je pense que là, dans cette version, nous touchons davantage la pensée de cette révélation. Je reprends. La divine puissance du Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Ça doit tout donner. Ne disons pas qu'il nous manque quelque chose. Non, tout nous est donné. En nous faisant connaître, le second disait, au moyen d'eux, la connaissance. Là, c'est la même chose. En nous faisant connaître celui qui nous a appelés, Jésus-Christ, celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à sa bonté. Voilà. Donc, c'est par la connaissance du Seigneur, c'est dans la connaissance du Seigneur que nous avons la disposition, que nous trouvons tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu, c'est-à-dire selon la piété, pour vivre la vie véritable et une vie naturellement de piété. Nous l'avons dans la connaissance. Et l'Épître aux Hébreux va nous amener à nous ramener à cette connaissance fortement. Et à une connaissance non pas seulement de Jésus sur la terre, Jésus dans son œuvre historique qui était nécessaire, dans ce qui a précédé le tout est accompli, mais Jésus, après le tout est accompli, Jésus maintenant, dans son œuvre de souverain sacrificateur, dans son œuvre là, qu'il conduit dans le sanctuaire céleste. Vous êtes-vous posé quelquefois la question de savoir, mais tout ce que Dieu a ordonné par la loi du Sinaï au peuple d'Israël de faire conduire un culte qui lui soit agréable, le culte lévitique avec un souverain sacrificateur, avec des sacrificateurs, avec des sacrifices. Est-ce que tout cela, en somme, est sans rapport et sans relation avec notre situation actuelle, alors que nous ne faisons plus de sacrifices d'animaux, que nous n'avons plus sur la terre un souverain sacrificateur sorti de la tribu de Lévi. Nous en avons un qui est sorti de la tribu de Judas. L'Épître va nous le dire. Mais nous n'avons plus tout cela, tout ce qu'avait le peuple d'Israël, tout ça, c'est resté dans l'ancienne alliance qui, l'Épître nous le dira, a pris fin. Elle a pris fin. Et il y a actuellement, nous sommes entrés dans une alliance d'autant plus excellente, bien meilleure, une alliance, Dieu a pu arriver à placer son peuple dans cette alliance, l'alliance de la grâce, qui est l'alliance parfaite, alliance qui conduit à la perfection. Mais, donc, il n'y aurait pas de rapport entre le culte lévitique d'autrefois avec ce souverain sacrificateur, le temple, ou antérieurement au temple, le tabernacle, et puis les choses qui sont dans le ciel. Mais il y a un rapport, il y a un rapport. Et les choses d'autrefois sont éloquentes. elles doivent nous aider à comprendre ce que fait actuellement le Seigneur Jésus dans son office de souverain sacrificateur. Il faut que nous le connaissions là, maintenant. Voyez-vous, c'est bien de dire souvent le sang de Jésus, moi je vais à la croix, tout ça, c'est pas mal. Mais si on redit toujours cela, si on ne voit que cela, on laisse de côté ce que nous avons à connaître et à voir maintenant. C'est-à-dire Jésus, dans un rôle, si je voulais, si j'emploie ce mot, ou dans un office, dans une fonction supérieure, qui est celle de souverain sacrificateur. Il est, nous le verrons, souverain sacrificateur à perpétuité, selon l'ordre de Melchisédek. Il exerce cette fonction de souverain sacrificateur pour nous, maintenant, dans le ciel, dans le tabernacle céleste. Et il faut le connaître. Et si nous le connaissons comme cela, si nous apprenons à bien le connaître comme ça, nous aurons à notre disposition tout ce qui contribue à la vie nouvelle, à la vie vraie et à la piété. Tout ce qui nous permettra de vivre dans l'attachement à Dieu. Voilà. Eh bien, ce matin, nous nous arrêtons là.